Dieu. Alors ensemble, nous pouvons offrir une offrande d'acclamation, Seigneur. Salut encore ton voisin, tu lis au bon endroit ce soir. Sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous soit accordée en abondance. Je vais obéir au Seigneur par rapport à ce qu'il a mis sur mon cœur. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur est une phrase interrogative. Sommes-nous de vrais adorateurs? Nous allons lire dans la parole de notre Dieu certains passages de la Bible pour essayer de comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Nous sommes dans l'évangile de Jean.
Gospel of John,
chapitre 4,
chapter 4,
verset 20.
Verse 20.
Nous allons parler de la plus grande recherche de Dieu, ce que Dieu recherche par-dessus tout.
Talk about of the one God wants to see.
Jean chapitre 4, verset 20.
Verse 20.
C'est la fameuse conversation entre Jésus et la femme samaritaine.
The Samaritan woman.
Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Déjà, si nous nous arrêtons sur ces deux versets, vous allez remarquer une chose avec moi, c'est que cette femme veut recevoir l'eau de vie que Jésus prétend posséder. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque elle demande cette eau de vie à Jésus, Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Alors, on peut se poser la question, où est le rapport entre de l'eau vive qu'elle veut recevoir et puis le fait d'aller chercher son mari. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Déjà, nous devons comprendre à partir de ce passage que le Seigneur n'est pas un distributeur comme ça de bénédictions gratuitement, demandez ce que vous voulez et il vous donne comme ça. Parce qu'il aurait pu donner à cette femme dans cet état, mais il recherchait autre chose dans la vie de cette femme. Il ne pouvait pas lui donner cette eau vive sans au préalable que cette femme se soit remise en question. Ce que nous appelons la repentance. Tant qu'elle n'avait pas pris conscience de son état. Parce qu'elle aurait pu mentir sur son état. Elle a dit la vérité qu'elle n'avait pas de mari. Et le Seigneur a dit, tu avais raison. Première chose, c'est que le Seigneur ne donne pas la vie comme ça à n'importe qui. À des hommes et des femmes qui savent se remettre en question. Avec Dieu. Et le verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient.
Time came.
Où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Voyez-vous, nous passons d'une situation où il s'agit de la vie.
Talk about the life.
Et automatiquement, nous nous retrouvons dans un contexte d'adoration. Et dans la version Parole de vie, il est dit ceci. La version que j'ai ici, nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne et vous les juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous les samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est là que nous rentrons dans le cœur de mon message. Dieu nous pose des questions ce soir. Est-ce que vous savez que nous pouvons adorer Dieu sans connaître Dieu? Est-ce que vous le savez? On peut adorer parce que ce que Dieu cherche, ce que Dieu cherche, ce n'est pas l'adoration. Je cherche les vrais adorateurs. L'adoration est le résultat de quelque chose. Moi, je ne vais pas vous parler du résultat, moi, je vais vous parler de la source qui produit l'adoration. La source qui produit l'adoration, c'est l'adorateur. Et l'adorateur, c'est lui qui intéresse Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la source. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Où les vrais adorateurs, la Bible aurait pu dire où les adorateurs tout simplement. Mais pourquoi la Bible précise-t-elle les vrais adorateurs? La Bible aurait pu dire les adorateurs. Mais la Bible dit les vrais adorateurs. On peut adorer Dieu mais sans connaître Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Acte 17, verset 22. On va y aller doucement, doucement, mais sûrement. Acte 17, 22. Vous êtes disposé à écouter la voix de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc je vais obéir au Saint-Esprit. Paul debout au milieu de l'aéropage, acte 17, verset 22.
Acte 17, verset 22.
Paul debout au milieu de l'aéropage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous savez, dans le cœur de l'être humain, il y a un besoin profond d'adorer Dieu. Mais le problème, c'est que ce besoin profond qui est dans le cœur de l'homme, on a du mal à réellement mettre la bonne étiquette là-dessus. Mais dans le plus profond de notre cœur, il y a un besoin d'adorer quelque chose. Il y a ce besoin-là intérieur d'adorer, de révérer quelque chose ou quelqu'un. Et même de nommer cette chose-là.
give name for this.
Parce que c'est ça qui est dans le cœur de l'homme.
This have the heart of the man.
Et donc c'est pourquoi je disais tout
That's
à l'heure
I'm saying,
que nous pouvons adorer, dire des choses au sujet de Dieu.
About God.
Nous pouvons proclamer des choses au sujet de Dieu.
Something about God.
Mais sans connaître Dieu.
But you don't know God.
La première des choses que nous devons comprendre, et c'est ce que le Seigneur a voulu faire réaliser à cette femme samaritaine, il a dit, ce que vous devez savoir d'abord par rapport à la vraie adoration, il a dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça commence par comprendre d'abord cette petite phrase. Dieu est esprit. Parce que les gens qui adorent, entre guillemets, Dieu, tout le monde n'adore pas Dieu esprit. Il y en a qui adorent des bouts de bois. Il y en a qui adorent des plantes, des feuilles. Il y en a qui adorent les éléments de la création. Il a dit, Dieu est esprit. Parce que l'adoration, c'est une affaire spirituelle. Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, donc nous ne pouvons pas le représenter. Si Dieu est esprit, donc il ne dépend pas d'un environnement bien précis. Si Dieu est esprit, donc il n'a pas de limitation. Parce qu'un esprit, on ne peut pas le contenir. Esprit, on ne peut pas le limiter. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il peut se mouvoir quand il veut, où il veut. Il ne peut pas être bloqué. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent Dieu doivent être nés de ce Dieu-là qui est esprit. Parce que l'adoration, c'est une affaire spirituelle. Ceux qui ont l'esprit de Dieu adorent Dieu qui est esprit. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent pas adorer Dieu qui est esprit. C'est pourquoi je dis, l'adoration, on peut tous adorer sans connaître Dieu. Parce que la vraie adoration commence par comprendre qui est Dieu. Dieu est esprit. Et ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui comprennent Dieu en tant qu'esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne pourra pas adorer Dieu parce que l'adoration, elle est en esprit. Ce qui fait qu'il y a des gens qui adorent mais qui n'adorent pas en esprit. Et on dit, et en vérité. Vous savez, on ne peut pas adorer Dieu qui est esprit sans que ce Dieu-là se révèle à
nous.
On ne peut pas proclamer des choses concernant Dieu qui est esprit si en même temps on n'a pas expérimenté ces choses-là. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas dire beaucoup de choses à Dieu. Et l'adoration, ce n'est pas beaucoup de paroles. Quand vous lisez votre Bible, les psaumes, là, les gens là qui ont écrit, ils n'ont pas écrit parce qu'il fallait écrire, ils ont expérimenté Dieu qui est esprit. Les psaumes que nous lisons, c'est le résultat d'une expérience avec Dieu qui est esprit. Et à ce moment-là, lorsqu'il parle de Dieu, de sa grandeur et de sa puissance, il parle d'un Dieu réel, vivant, mais qu'ils ont expérimenté. La vraie adoration, c'est un vécu. Si tu n'as pas vécu la grandeur de la puissance de Dieu, ça va être difficile pour toi de dire Dieu, tu es grand. Tu vas le dire, mais ça ne sera pas vrai. Dieu est esprit et ce qu'il adore, adore en vérité. C'est-à-dire, ils ont vécu quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas beaucoup parler, même une simple phrase suffit pour toucher le cœur de Dieu. Parce que ça, tu l'as vécu. Ce n'est pas la course. L'adoration, ce n'est pas la course. C'est une rencontre de cœur. Ton cœur qui rencontre Dieu. Ton esprit en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu lui dis tout simplement, Seigneur, gloire te soit rendue pour ça. J'ai vu ta main, sois béni, Seigneur. Tu as adoré Dieu, c'est fini. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, c'est un vécu. Je vous assure. Et nous allons voir à travers le livre de Job, cinq principes ou cinq informations importantes au sujet de l'adorateur. Parce que je vous ai dit que l'adorateur, c'est lui qui est la source. L'adoration est le résultat du cœur de l'adorateur. Et l'adoration qui est le résultat du cœur de l'adorateur a plusieurs formes d'expression. On peut chanter, on peut battre des mains, on peut sauter, on peut servir Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle les formes d'adoration. Mais à la base, l'adoration, c'est une affaire de cœur et qui a une expression. Et Dieu cherche ça, le cœur. Il a dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres. C'est pourquoi je dis que nous pouvons honorer Dieu des lèvres. Mais il ajoute, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons honorer Dieu des lèvres, mais ne pas avoir un cœur pour Dieu. On peut l'honorer, on peut chanter, on peut crier, on peut danser. Mais il dit, ce peuple honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu cherche la source. Le cœur. C'est ça qui est le plus important pour le Seigneur. Le cœur. Alors, on va aller dans le livre de Job ensemble. Le dernier chapitre de Job, la fin de l'histoire. Donc, comprenez déjà que l'adoration est un acte spirituel. Sa source, elle est spirituelle. C'est ça la source de l'adoration. Et ne peut adorer que celui qui est né de Dieu. Et nous allons voir la vie d'un homme, le patriarche Job, chapitre 42, à travers les sept premiers versets. Nous allons découvrir des principes, des informations au sujet de l'adoration. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Verset 4.
You thought of the distance and answer your questioning. I heard about your firm order.
Bon, voilà, là tu m'as déjà devancé, c'est bon. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds sous la poussière et sous la cendre.
I have myself and seek her in God and hedge.
Verset 7, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphias de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis.
And you and your two friends.
Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette robe. On va à la fin du verset 8. Encore une fois, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Ce que nous voulons voir ici, c'est quoi? Nous parlons ici de l'adorateur, parce que la question que Dieu nous pose, est-ce que nous sommes des vrais adorateurs? La première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas adorer Dieu sans que Dieu se révèle à nous. La première des choses, c'est la révélation, avoir la révélation de Dieu. Parce que l'adoration est une révélation. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ça commence par la révélation. Dieu se révèle. Dieu vient vers toi. Dieu te montre un aspect de lui, de sa puissance, de sa personne divine. Dieu se révèle dans une situation bien précise de ta vie. C'est la révélation. Parce que le père Job a servi Dieu. Mais sans connaître ce Dieu-là. Parce qu'il dit, au verset, on va commencer, au verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire que Job a servi Dieu, non pas sur la base de la révélation, mais à cause de ce qu'il avait entendu sur Dieu. Vous savez, il y a plusieurs religions dans ce monde où les enfants, ceux qui naissent dans ces religions-là, ils servent le Dieu de la religion, hein, mais sans connaître ce Dieu-là. Moi, je reviens d'un pays arabe, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu es né là-dedans et tu suis la tradition des pères. Hein. Tu n'as même pas expérimenté le Dieu, mais je suis né musulman, je mourrai musulman, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, c'est comme ça. On hérite même, donc la religion, on hérite, mais on n'a pas expérimenté. On défend même la cause de la religion sans même connaître le fond. Vous allez les voir, ces gens-là, ils vont défendre ce qu'il y a dans leur livre, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais lu le livre. C'est parce qu'on leur a dit seulement. Job a servi Dieu. Et tout à l'heure, pendant que j'étais à la gare pour attendre mon train pour venir ici, j'étais en train de méditer encore là-dessus. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Job t'a servi. Mais il t'a servi, mais sans te connaître. Comment cela est possible? Et c'est là que l'Esprit de Dieu commençait à m'enseigner pour dire que le problème, c'est que Dieu peut utiliser qui il veut, même si la personne ne connaît pas Dieu, n'est même pas dans l'alliance avec Dieu. Parce que lorsque Dieu appelle Cyrus, un roi païen son serviteur, un roi qui ne prie pas le Dieu Adonai, mais Dieu l'appelle mon serviteur, Dieu utilise ce qu'il veut. Le problème, ce n'est pas une affaire de serviteur de Dieu, c'est une question d'être enfant de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. Mais même païen. Mais est-ce que ce païen que Dieu utilise est son enfant? Non, il n'est pas son enfant, mais il est son instrument. C'est son instrument, mais ce n'est pas son enfant. Donc nous avons des serviteurs de Dieu, des gens qui servent Dieu, et nous avons les enfants de Dieu. Eux aussi servent Dieu. Et la différence, c'est que les autres sont nés de Dieu, les autres ne le sont pas. Eux, ils font des choses pour Dieu. Alors qu'on peut faire des choses pour Dieu, et puis Dieu n'est pas avec nous. Servir. Job, il a servi. Hein. Vous savez, il y a combien de personnes qui font des choses pour Dieu sur cette terre? Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour Dieu. Hein. Beaucoup de gens font des choses pour Dieu. Et ce qui est curieux, c'est que Job a servi Dieu, il était intègre. Nous avons aussi dans les temps actuels des gens qui servent Dieu, qui sont intègres, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais vous voyez des gens comme ça là, ils ne sont pas chrétiens, mais ils font des choses, ils sont irréprochables, ils font des choses moins bien. On leur décerne même des prix Nobel de ceci, prix de ceci, parce que voilà, ils sont comme ça. Et Job, voilà un homme, il servait Dieu sur la base de ce qu'il avait entendu. Et comme je vous ai dit que l'adoration c'est un vécu, Job n'avait pas encore expérimenté Dieu. Job, il n'avait pas encore vécu. Il avait seulement entendu. C'est vrai, c'était une première étape. Parce qu'on le veuille ou non, la foi vient de ce qu'on entend, oui ou non. Il avait entendu. C'était déjà une première étape. L'étape qui fait naître la foi en Dieu. Mais cette étape-là ne suffit pas pour faire de nous des adorateurs véritables. Parce que le vrai adorateur, regardez les enfants d'Adam. Caïn et Abel sont sortis du ventre de Ève, oui ou non? Les deux sont sortis du ventre de Ève. Les deux étaient fils d'Adam. Mais les deux, dans leur expression d'adoration, Dieu a grillé l'un, Dieu n'a pas accepté l'autre. L'autre a adoré par révélation, l'autre n'a pas adoré par révélation. L'adoration d'Abel était une adoration par révélation. Et à cause de cela, Dieu a trouvé son plaisir. Caïn, il a fait son adoration, mais Dieu n'était pas dedans. C'est une question de révélation. Dieu se révèle d'abord. Et vous saisissez la révélation, vous captez la révélation, vous comprenez la révélation. Et à partir de là, après la révélation, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, lorsque un homme reçoit la révélation de Dieu, Job dit ceci, la suite, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ici, nous parlons de la repentance. Vous savez, lorsque nous rencontrons Dieu, nous nous retrouvons en face avec notre propre injustice, notre propre péché. C'est pas possible que tu rencontres Dieu et que tu te tiennes devant Dieu tranquillement comme si rien n'était. Non. Tous ceux qui l'ont véritablement rencontré ont été convaincus de leur propre péché. Parce que sa sainteté te renvoie à ton propre péché. Sa dignité te renvoie à ta propre indignité. C'est pourquoi lorsque Esaïe a eu la révélation de Dieu, lorsque Esaïe a eu la révélation de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la gloire de Dieu et il s'est senti sale, il s'est senti indigne de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu es tranquillement dans ton péché, c'est pas possible. Tout de suite, tu te sens impur. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, tout de suite, il a senti qu'il n'était pas bien. Il était nu. Il a cherché à se cacher. Sa sainteté nous renvoie à notre propre péché. Je vous assure, sa sainteté nous renvoie à notre propre péché. Et ça te pousse à te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne suis pas digne pour recevoir une telle révélation. Parce que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Mais lorsque Dieu décide de visiter quelqu'un, c'est une grâce. C'est une grâce. Esaïe, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu quelque chose que je ne sais pas si combien d'autres nous on a vu la même gloire. Hein? Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. C'est ce que j'ai lu juste le dernier verset. Il dit, mes yeux ont vu le roi. Parce qu'il a vu, il dit, malheur à moi. Lorsque nous rencontrons Dieu, est-ce que c'est ce sentiment-là qui est dans le cœur, malheur à moi? Lorsque nous disons qu'on a vécu la gloire de Dieu lors d'un culte, est-ce qu'au fond de toi, tu as malheur à moi? Tu as rencontré Dieu. Et ton propre cœur, il t'a pas dévoilé ton propre cœur. Combien viennent à l'église, vous savez, notre spiritualité, c'est seulement l'église. Combien viennent à l'église et qui ont des cœurs durs, fermés. Il y en a même qui ne se parlent pas. Mais ici, comme tout le monde est pieux, on adore Dieu, on loue le Seigneur, on pleure dans sa présence. Mais cette présence de Dieu qui ne te rappelle pas, qui ne te parle pas de ton propre cœur, ce qui est un problème, c'est quelle présence de Dieu? Tous ceux qui ont été confrontés à cette présence de Dieu, ils étaient confrontés à leur propre péché. Maintenant, nous, on dit qu'on a été touché par la présence de Dieu et notre propre cœur, là, on ne voit pas l'état de ce cœur et on sort de là, on continue à garder sa position. Non, il faut qu'il y ait une repentance, changement ta façon de te voir, de voir Dieu, de voir les autres aussi. Il faut changer les mentalités. Révélation, repentance. Et comme je disais, ne peut adorer Dieu que celui qui est né de Dieu. Or, ne peut naître de Dieu que celui qui passe d'abord par la repentance. Parce que la repentance te conduira à la véritable conversion. Et là, j'aimerais dire ce soir, On ne se convertit qu'une seule fois. Mais on se répand jusqu'à ce que Jésus revienne. Il n'y a pas plusieurs conversions. Où tu l'as rencontré, où tu ne l'as pas rencontré. Où tu l'as connu, où tu ne l'as pas connu. On ne se convertit pas plusieurs fois. C'est une seule conversion. Mais la repentance, c'est toute notre vie. Notre vie. On a besoin de marcher, c'est ça la repentance. Aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Aligner nos paroles avec les paroles de Dieu. Ça, c'est la repentance. Et toute ta vie, tu as besoin de ça. Mais la conversion, une fois. Tu t'es repenti, tu es rentré dans la conversion. Et maintenant, dans la marche chrétienne, tu as aussi besoin encore de te repentir. Changer ton intelligence par rapport à la parole de Dieu. Pour produire les fruits de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la repentance, ça va être difficile pour nous d'être comme le Seigneur. Parce que notre disque dur a été endommagé. Il faut tout changer là-dedans. C'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la repentance. Repentance. Et après la repentance, qu'est-ce que Job nous révèle encore? Alors, après la repentance, je repars dans le livre de Job. On était dans Isaïe, on repart dans Job. Job, à la fin, il nous dit encore une chose formidable. Il dit ceci. Verset 2. « Je reconnais que tu peux tout. »
No one can oppose you because you have the power to do what you want.
« Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Parlons ici de la reconnaissance. Avoir un esprit de reconnaissance. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu avec un esprit de reconnaissance. C'est-à-dire, il reconnaît d'abord la capacité de Dieu. Qui est Dieu? Il reconnaît que tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu es capable, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter, tu reconnais. La Bible dit que nous devons reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Je dis bien dans toutes nos voies. Et nous devons comprendre que dans cette reconnaissance, non seulement nous reconnaissons Dieu dans sa capacité, mais nous devons reconnaître également que nous ne sommes rien. Dieu peut tout.
God can everything.
Et moi, je ne peux rien.
I can anything.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu veut tout.
God can everything.
Mais moi, son Dieu, je ne peux rien.
Any God, I can anything.
Parce que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, le contraire de tout, c'est quoi? C'est rien. Donc, si je ne suis pas connecté à Christ, je ne pourrai rien faire. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire? Alors, nous devons reconnaître que Dieu est capable de tout. Mais nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Ne commettons jamais l'erreur de nous appuyer sur nos acquis. Parce que ce que tu as, ça vient de Dieu. Parce que quelquefois, les gens, ils oublient ça. Même dans les choses les plus petites, on a l'impression que ça vient de nous. Ça ne vient pas de toi. Ton travail, ta santé, ton mariage, tes enfants, ça vient de Dieu. C'est une grâce. C'est Dieu qui donne. Même les païens qui pensent que c'est leur force, c'est leur capacité, c'est fort. Parce que si Dieu enlevait le souffle de vie là, il serait des cadavres. Même les incroyants, même les satanistes qui donnent la vie à ces gens-là. C'est Dieu ou pas? Qui est le garant du souffle de vie? C'est Dieu ou pas? Alors, chrétien ou pas chrétien, c'est Dieu qui est la source. Donc, pourquoi s'appuyer sur ses acquis? Moi, je me suis fait tout seul. C'est faux!
Non.
Tu ne peux pas te faire tout seul. Moi, c'est mon intelligence. C'est faux. Qui donne l'intelligence aux hommes? C'est Dieu. Même les incroyants, si Dieu décide de vous frapper de folie, c'est terminé pour vous. C'est Dieu qui tient vos destinées dans sa main. Personne ne peut combattre contre Dieu. Oh, je me suis fait tout seul. Moi, c'est mon travail. Moi, ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu qui travaille dans ta vie. Il a voulu te rendre intelligent. Il a voulu te donner des opportunités. Il a voulu te donner certaines sagesses. C'est Dieu qui l'a décidé. Toute grâce vient de Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Moi, je suis rien. Un adorateur. Un vrai.
The true worshipper.
Il reconnaît, il ne s'appuie même pas sur lui. C'est même un danger de s'appuyer sur nous-mêmes. Si tu t'appuies sur toi-même, tu vas t'écrouler. Si tu t'appuies sur toi-même, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Toi-même, tu n'es pas une sécurité pour toi-même. Parce que si tu t'appuies sur tes acquis d'aujourd'hui, ton travail d'aujourd'hui, qui ne te dit pas que demain tu seras licencié? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur ça, ce n'est pas une sécurité ça. Ta sécurité, ce n'est pas ce que tu as. Ce que tu as, ça vient de Dieu. Prends le temps de rendre gloire à Dieu même pour les petites choses. Ce n'est pas où je m'appuie sur ces choses-là. Vous savez, la vie de quelqu'un peut basculer d'un jour au lendemain. La vie de quelqu'un peut basculer. Tu peux avoir aujourd'hui, demain tu n'as plus rien. Parce que tu t'étais appuyé sur quoi? Tu dois chercher le rocher. Le rocher, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui le rocher. On bâtit sur ce rocher-là. Tu t'assois sur ce rocher-là. Tu trouves ta sécurité dans ce rocher-là. C'est ta sécurité. C'est ta protection. C'est Christ notre Seigneur. Je reconnais qu'il peut tout et que je ne suis rien. Il a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. Je reconnais ma misère et ma pauvreté. Seigneur, je ne suis rien. Toutes mes capacités me viennent de toi. Alors quand tu as une attitude de cœur comme ça, là tu plais à Dieu. On ne vient pas devant le Seigneur avec notre suffisance. On ne vient pas devant le Seigneur avec, je ne sais pas, tous nos diplômes, avec notre statut social. Non, tu viens devant le Seigneur parce que tu n'es rien sans lui. Et il y en a qui viennent devant Dieu avec toute leur suffisance. Moi et moi non. Lorsque tu vas tomber dans le moi, souviens-toi de Nebuchadnezzar. Dieu a élevé ce roi-là de Babylone. Dieu lui a donné la gloire. Mais lorsque Nebuchadnezzar a oublié de rendre gloire à Dieu, Dieu l'a précipité. C'était un roi païen. Mais même lui, comme il n'a pas rendu gloire à Dieu, Dieu s'est levé contre lui. Parce qu'il s'est appuyé et dit, j'ai acquis par ma propre force. Alors ça venait de Dieu, c'était une grâce. Donc c'est important pour nous de savoir avoir un esprit de reconnaissance. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Vous savez, quelquefois, même dans l'adoration, nous voulons compliquer les choses. Nous cherchons à adorer Dieu pour des grandes choses. Les choses que nous on appelle grandes, parce qu'en réalité, pour Dieu, qu'importe. Nous, on cherche les grandes choses. On attend ces portes qu'on a longtemps attendues, la souffre, pour pouvoir bien adorer Dieu. Comme je l'ai dit à l'église à Orléans, j'ai dit que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a quelqu'un dehors qui aimerait être à ta place. Ce que toi tu méprises là de ta situation, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Le peu que tu as là, bénis Dieu. Mais toi, tu ne veux pas bénir Dieu. Parce que tu attends la grande chose là. Tu attends la grande opportunité pour bénir le Seigneur. Non! Dans les plus petites choses, bénis Dieu. L'air que tu respires, c'est une grâce. Bénis Dieu. Tu as des pieds pour marcher. Bénis Dieu. Tu as la santé. Tu as le travail. Bénis Dieu. Tu as pris le petit déjeuner le matin. Bénis Dieu. Toi,
tu as ton corps pour adorer le Seigneur. C'est toi les grandes choses.
Alors qu'il y a des gens qui aimeraient avoir le peu que tu as. Il y en a qui foutent des poubelles pour avoir de quoi manger. Il y en a qui dorment sous des ponts. Mais toi, tu dors où? Et tu penses que Dieu ne fait pas assez pour toi? Et pour ça, tu ne veux pas adorer Dieu? Oh, je suis fâché contre Dieu. Je suis fâché contre Dieu. Tu oses dire que tu es fâché contre Dieu. Si Dieu dit, bon, maintenant je t'enlève le peu là, tu te retrouves dans la rue, tu fais comment? Seras-tu capable de vivre comme ces gens-là qui sont dans la rue? Est-ce que tu es prête à vivre comme ces gens-là? Puisque tu attends le grand pactole, le jackpot avec Dieu. Comme tu attends là. Je lui dis, d'accord, je vais te renvoyer. Est-ce que tu pourras vivre comme ces gens-là? Tu ne pourras pas. Alors le peu que Dieu t'a donné aujourd'hui, bénis ton Dieu. Cœur d'adorateur. Même dans les choses que nous on appelle petites, c'est quelqu'un qui sait reconnaître Dieu là-dedans. Il n'attend pas Dieu dans des choses compliquées. Il sait que Dieu, même dans les choses insignifiantes du monde, Dieu est là-dedans. Et c'est comme ça qu'il développe un cœur d'adorateur. Et pour terminer, ce que nous devons savoir au verset 7, Job il dit ceci. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ici, il a parlé de la droiture. Un vrai adorateur, c'est un homme et une femme qui est en règle avec Dieu. C'est quelqu'un qui est en règle avec Dieu, qui ne joue pas avec le péché.
Hein.
Ah oui, il est en règle avec Dieu. Il veille à sa sanctification.
Hein.
Il ne joue pas avec le péché. Vous vous rendez compte, on est dans un monde où le péché a tellement été minimisé. Vous voulez qu'on vous montre l'horreur du péché? Regardez la croix. Vous voulez voir l'horreur du péché? Regardez la croix. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme de 33 ans. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Vous voulez connaître l'horreur du péché? Ce que c'est le péché? Mais regardez la vie de cet homme. Et aujourd'hui, on se permet de dire, oh, ça c'est mon péché mignon. Mais comment le péché peut être mignon? Regardez comment le monde a tenu mon péché mignon. Mais le péché est mignon comment? Mais le péché, c'est une horreur, une abomination. Ça sent la pourriture. Ça peut pas être mignon. Mon péché est mignon. Oh, mais c'est ma faiblesse, mon péché mignon. Dieu n'a jamais excusé le péché. Dieu a toujours jugé, condamné le péché. Et fermement, regardez ce qui s'est passé à Golgotha. Il n'a pas joué avec la question du péché. Et nous, on veut jouer avec le péché. Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra pas le péché. Parce que si Dieu comprenait le péché, Christ ne serait pas allé à Golgotha. Il aurait pu se dire, bon, écoutez, je vous pardonne parce que je vous aime, l'histoire est réglée. Mais le jugement devait s'abattre sur un homme. C'est l'heure du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un paye. C'est pas une histoire qu'on va régler, comme on dit, de main à main, derrière la maison. Ça, c'est pas réglé comme ça. Il fallait que quelqu'un paye pour le péché. À cause de la justice de Dieu. Il fallait que le péché soit condamné. Si vous arrivez à comprendre l'œuvre de la croix, à comprendre la vie même de Jésus, ce qui s'est passé, le sacrifice de Jésus, mais vous ne jouerez pas avec le péché. Hein. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas. Un adorateur, c'est quelqu'un qui doit être en règle, chercher à se régler avec Dieu. C'est-à-dire chercher à te sanctifier. Sinon, il va dire quoi? Il va dire, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur, oui, le cœur. Parce que la Bible dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises choses. Son cœur est éloigné de moi. C'est là que vous comprenez que quand nous chantons, nous louons Dieu, nous prions, nous n'impressionnons pas Dieu. Les gros mots logiques que nous employons.
nous n'impressionnons pas Dieu.
Dieu veut même écouter la prière d'un petit enfant.
God wants to understand prayer of the.
Parce qu'il est vrai, il est sincère.
But this is the truth.
Il dit ce qui vient de son
cœur.
Mais nous, est-ce que toutes les fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, est-ce que ça vient du cœur ou de simplement les lèvres? Parce que les enfants, eux, quand ils parlent, c'est le cœur. Avant de la prière d'un enfant. Et devant Dieu, nous sommes des enfants, non? Dieu veut qu'on parle avec le cœur.
Talk about of your heart.
C'est pas impressionné. Malheureusement, dans nos communautés, on impressionne tellement les autres, les voisins. C'est vrai qu'au départ, ça encourage certains, mais c'est pas des défis. Chaque dimanche, je vais chercher un mot nouveau pour me montrer que moi j'ai fait des recherches. Comme ça, quand je vais adorer, ils vont sentir que moi là, je suis vraiment spirituel. Et tu vas sortir un terme peut-être que même ton pasteur n'a jamais employé ici. Tu sors un mot comme, je ne sais pas, tu es le cèdre du Liban, je ne sais pas quoi là. Et là, tout le monde écoute attentivement, mais cèdre du Liban. Est-ce que même tu comprends ce que tu dis?
Ouais,
c'est ça. On veut impressionner. Alors que tu peux être tout simplement avec des mots simples. Parce que j'ai dit Dieu et l'adoration, c'est du vécu. Seigneur, je t'adore, je te bénis, Seigneur. J'ai pris ce train, il n'y a pas eu d'attentat. Je suis arrivé Saint-Sauf à Amiens. Merci, Seigneur. Ça peut être banal, Dieu. Oh, ça c'est quelle prière du pasteur. Mais c'est mon adoration. Vous savez, les gens qui prennent les trains là, ce qui se passe. Peut-être que le train que j'avais pris, il y avait un attentat. Ou bien un déraillement. Tout pouvait arriver, oui ou non? Il n'y avait pas de certitude que j'arrive ici, c'est un sort. C'est la grâce de Dieu. Alors je glorifie mon Dieu pour cela. C'est ça l'adoration. Tu as pris le bus, tu as pris ta voiture, tu es arrivé quelque part, bien. Mais bénis Dieu pour ça. Il y a des gens qui meurent d'accidents de circulation, oui ou non? Toi, tu penses que. Parce que vous savez, on s'est tellement habitué, c'est ça le problème. On est tombé dans l'accoutumance. Tu prends ta voiture, boulot, maison. Et tu trouves ça normal. Il n'y a rien de normal, mon ami. Il n'y a rien de normal. C'est une question de grâce. C'est pas normal, hein? Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce que toi tu appelles normal, là, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aime la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu finalement me fait comprendre que je ne suis rien. Et que je suis ce que je suis à cause de Dieu. Alors on va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu nous donne un cœur d'adorateur. Tu as prié ton Dieu, Seigneur, je veux avoir ce cœur-là. Parce que tu cherches des vrais adorateurs. Je veux être un adorateur. Je veux que la vraie adoration sorte de mon cœur, Seigneur. Je veux réjouir ton cœur, Seigneur. J'ai vraiment besoin, Seigneur, d'être en règle avec toi. Je ne veux pas t'impressionner, je ne veux pas faire semblant, Seigneur. Mais je veux être transparent devant toi, je veux être moi-même devant toi, Seigneur. Alors c'est pourquoi je te demande une seule chose, Seigneur, donne-moi un cœur d'adorateur. Et c'est la prière que je vais nous inviter à faire au Seigneur, puisqu'il cherche cela. Tu vas dire, Seigneur, je veux passer à un autre niveau. J'étais certainement un adorateur, mais tu veux que je sois un vrai adorateur. Donc, Seigneur, je veux passer à ce niveau-là, être un vrai. Je veux véritablement coordonner ce que je dis et ce qui est dans mon cœur. Je veux être cet adorateur, ce que tu cherches. Cette adoratrice que tu cherches dans la ville d'Amiens. Je veux être ce cœur-là, Seigneur. Pas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce message me concerne également parce que tu cherches des hommes et des femmes qui soient des vrais adorateurs. Seigneur, je veux être un adorateur, un homme qui réjouit ton cœur. Seigneur, je veux apprendre à marcher dans la révélation de ce que tu es pour moi. Je ne veux pas mépriser les choses faibles de ma vie, mais apprendre à regarder à travers ces choses faibles la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi de comprendre que tout est grâce dans ma vie, Seigneur. Que tout est grâce dans ma vie, Seigneur. Et que ce que je suis, ce que je fais, cela vient de toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être vrai dans ta sainte présence dans l'Assemblée des Saints. Donne-moi, Seigneur Dieu, de pouvoir véritablement m'approcher de toi, non pas pour impressionner mon frère et ma sœur, mais véritablement pour t'exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Je t'en supplie, éternel notre Dieu, donne à chacun de nous encore une fois ce soir de pouvoir apprécier jour après jour la grâce de Dieu, jour après jour la grâce de Dieu, qu'aucun jour de ma vie qui passe, que je ne puisse apprécier la grâce de Dieu que tu as manifestée dans ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie.
Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout vient de la main d'amour de Dieu. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout vient de la main d'amour de Dieu. Tout est grâce, 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 tout vient de la main d'amour de Dieu. Tout est grâce, 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 tout vient de la main d'amour de Dieu.
Alors bénis une dernière fois le Seigneur pour la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alléluia.
Je me tiens devant toi, Seigneur Dieu, pour apprécier encore ta grâce, Seigneur. Aide-moi chaque jour à apprécier cette grâce excellente qui vient de toi, Seigneur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Seigneur Dieu.
Merci.
Oh, Shakara, Basu.